Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. C'est toujours une immense joie de vous retrouver pour vous partager une nouvelle interview. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Fayard au micro de YogiBiz Podcast. Marie est professeure de yoga et la fondatrice de Atom, un abonnement mensuel de yoga en ligne. Pour la petite histoire, Marie a été l'une des premières professeurs de yoga à qui j'ai envoyé un sondage quand j'ai créé YogiBiz Coaching et je me souviens à l'époque de son désintérêt total pour le digital. C'était pourtant il y a quelques mois seulement. Depuis, Marie a développé son activité vers un enseignement quasiment exclusivement en ligne. Vous imaginez donc que je trépignais d'impatience d'interviewer Marie sur ce retournement de situation et de vous en faire profiter. Quel a été le déclic de ses cours en présentiel au lancement de son membership Atom? Comment est né ce projet? Quel a été le processus pour le mettre en œuvre? Vous découvrirez toutes les coulisses de ce projet digital. Comment Marie a su créer une offre irrésistible qui a tout de suite plu à son audience? L'importance de se faire accompagner ou encore le rôle qu'a joué Instagram dans le développement de son activité? Ce n'est donc pas par hasard si je commencerai l'interview en demandant à Marie si un prof de yoga peut vivre aujourd'hui d'une activité à 100% en ligne. Dans cet épisode, Marie revient aussi sur son parcours, nous livre sa rencontre avec le yoga et nous parle de ses premiers pas après son yoga teacher training. Comment elle a trouvé ses premiers clients, combien de temps il lui a fallu pour vivre de son enseignement, ce qu'elle a tout de suite aimé, mais également l'envers du décor de cet univers pas toujours bienveillant. J'en ai également profité pour lui demander quelques tips sur le matériel qu'elle utilise pour ses vidéos, ses conseils pour un bon setup ou encore toutes ses inspirations du moment. Derrière cette femme douce, généreuse et bienveillante, vous découvrirez une vraie yogipreneur qui n'a jamais eu peur de dire non et qui sait ce qu'elle veut, qui suit ses convictions et vous ressentirez à quel point Marie est très alignée avec sa mission, ce qui la rend authentique et très inspirante. Que vous soyez prof ou élève, cet épisode est une gourmandise. Tout de suite, je laisse place à ma conversation avec Marie Fayard. Eh bien, bonjour Marie, bienvenue, je suis ravie de t'accueillir sur YogiBiz Podcast.
Ben, merci de m'accueillir, bonjour Cécile, et je suis ravie d'être là aussi.
Alors Marie, je vais commencer avec une première question avant de te découvrir un peu plus et que tu nous racontes ton histoire et ton parcours avec le yoga. Mais avant, j'aimerais te poser cette question. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de vivre du yoga en ligne selon toi ?
Ben oui, c'est possible parce que c'est le cas pour moi.
Ok, donc voilà, donc Marie a bien répondu à la question. Je vous propose qu'on continue l'interview du coup et on reviendra effectivement sur cette expérience de yoga en ligne puisque c'est le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui avec toi Marie. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi si certains de mes auditeurs ou auditrices ne te connaissent peut-être pas encore très bien et puis nous dire comment le yoga est entré dans ta vie?
Donc, j'enseigne le yoga depuis 2 ans. Je suis installée dans la région de Montpellier. Et le yoga est entré dans ma vie il y a 7 ans, tout juste, de façon assez imprévue. À l'époque, j'étais dans une vie totalement différente et j'avais une cliente ce jour-là qui m'a dit « Je vous verrais bien faire du yoga, vous devriez venir essayer, c'est ce soir. » Et je lui avais dit, j'avais déjà pensé, mais non, j'ai pas encore les moyens cette année, j'ai trop d'autres activités. C'est pas le moment. Elle a insisté en fait en me disant, si, mais venez, le cours d'essai est gratuit, vraiment, je vous verrais bien faire ça. Et puis je me suis dit, après tout, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et voilà, la rencontre qui a changé ma vie. Donc je suis allée à ce cours complètement sans attente, sans savoir ce que c'était, sans savoir où j'allais, où je mettais les pieds. Je sais même pas si j'avais un tapis. C'est un cours qui a duré, je pense, pas loin de 2 heures. Quand je me suis allongée à la fin, je savais pas ce que c'était qu'un shavasana et j'ai pleuré pendant des heures. Et je me suis dit, là, il se passe un truc et je ne peux plus jamais arrêter. Donc, j'ai commencé à partir de ce jour-là et j'ai plus jamais arrêté. Voilà.
Ok. Et c'était quel type de yoga ?
C'était yoga dynamique, Hatha Vinyasa.
D'accord.
Il n'y avait pas vraiment de nom et de catégorie, mais voilà, très dynamique.
Et du coup, à partir de là, tu as commencé à avoir une pratique régulière, ouais. Toutes les semaines.
J'ai commencé toutes les semaines, et puis très vite, en fait, deux fois par semaine, j'ai demandé à ce qu'on ouvre un deuxième créneau, ils l'ont fait. C'est dans un village reculé de la Bourgogne, et ils ont ouvert un deuxième créneau. Et puis très vite, j'en ai pris même trois, parce qu'elle donnait aussi des cours dans un autre village, ouais. J'allais. Et puis l'été, parce que c'était associatif, il n'y avait pas de cours, donc je devais venir à la maison. Enfin, c'était, je pouvais plus m'arrêter.
Ok, aficionados, quoi.
Ouais, jusqu'à pratiquer après seule, et voilà.
Et du coup, à quel moment est arrivée ton envie d'enseigner le yoga ou le fait de penser à l'enseigner
très
à
tard.
Ton tour ?
Très tard, parce que j'ai été coach sportif dans une autre vie encore avant.
On apprend des choses.
Et en fait, j'aimais pas vraiment ça. Et l'envie l'idée d'enseigner m'avait déjà traversé l'esprit, mais je me disais, mais en fait, non, c'est quelque chose que j'aime pratiquer pour moi. Mais est-ce que j'aimerais l'enseigner ? Parce que quand j'étais coach sportif, j'aimais faire du sport pour moi. Mais en fait, passer de l'autre côté, ça m'a pas forcément plu. Mmh. Et donc, je me suis pas trop posé cette question. Mais le yoga prenait de plus en plus de place dans ma vie et a transformé ma vie. Et en fait, c'est plutôt mon entourage qui... mon ami de l'époque qui me disait « Mais tu parles que de ça, t'es passionnée, quand t'en parles, t'as les étoiles dans les yeux, pourquoi tu te formes pas ?» Mmh. Et ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'est un jour ma prof qui m'a dit « Mais pourquoi tu te formes pas ?»
Ouais.
Et donc ce jour-là, je me suis dit « Ok. » Ok, j'y vais.
Donc, t'es allée faire un 200 heures
ouais.
Dans l'optique, du coup, d'enseigner par la suite.
Bah, en fait, mon intention première, c'était même pas d'enseigner. C'était vraiment de le faire pour moi et d'approfondir encore plus ma pratique. Et dans les, on va dire, 3-4 premiers jours du teacher training, j'ai compris que j'adorais ça. Vraiment, parce qu'en fait, on a commencé à enseigner dès le début. Et j'avais super peur de ça. C'était vraiment ce qui m'angoissait dans le teacher training, c'était de passer de l'autre côté et d'enseigner. Et en fait, le premier, c'était peut-être 15 minutes mini cours que j'ai donné, j'ai compris que j'adorais ça. Quoi.
Ouais. Ouais.
Donc voilà, du coup, c'est venu très vite. Une fois que j'ai lancé le processus, c'est venu très très vite.
Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on sent qu'on est fait pour ça ? On finit le yoga teacher training, et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait pour passer de l'autre côté de la barrière, ouais. Trouver ses premiers élèves, donner ses premiers cours.
Bah alors après, moi, je suis un peu folle, hein, mais j'avais quitté mon boulot, j'avais vraiment tout plaqué, donc j'avais plus rien, donc plus le choix, on va dire, parce que je pouvais pas me dire je commence un peu par-ci, par-là, en attendant de développer. Mais en même temps, j'avais quand même un peu de temps devant moi et j'avais envie de prendre un peu de temps pour intégrer, parce que c'est dense, c'est intense, un teacher training d'une traite. Et il y a tellement de choses qu'on a envie d'approfondir, parce qu'en 200 heures, on survole tout un tas de sujets. On peut pas du tout aller dans toutes les facettes du yoga. Et donc, j'avais vraiment envie de prendre du temps. Et puis, en fait, les choses se sont présentées. Un studio m'a proposé de faire un remplacement. J'avais donné 2-3 cours particuliers à des copines pour me faire un peu la main.
Oui.
Et elle m'a proposé un remplacement. Donc, elle m'a fait venir avant pour faire un essai, entre guillemets, sur elle et 2-3 élèves qu'elle avait fait venir. Et j'ai commencé comme ça, avec un remplacement, puis un deuxième, puis un troisième, puis ça s'est lancé.
Ok. Donc, du coup, tu as commencé par donner des cours en studio,
ouais.
Finalement.
Hein. Ouais.
Bon, en même temps, ce qui était probablement la seule option peut-être
à l'époque.
Ouais, donc tu donnais des cours privés aussi
un petit peu
à côté.
J'ai commencé, c'est venu aussi très vite. En fait, j'avais un voisin médecin qui m'a dit « Ah, t'es prof de yoga, j'ai une patiente. » Donc il a donné mon contact à une patiente. Puis en fait, ça s'est fait au bouche à oreille. J'ai eu quelques cours particuliers. Enfin, j'avais quand même pas mal de cours particuliers à l'époque, dès le début, qui ont été réguliers très vite.
Et est-ce que tu arrives du coup à en vivre ? Parce que c'est souvent la question. Alors, j'ai beaucoup de jeunes profs de yoga dans mon audience qui me posent toujours cette question. Déjà, enfin voilà, par quoi je commence ? Et est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je peux en faire un métier, un job à part entière, entre guillemets, quand je démarre ? Est-ce qu'il faut un certain nombre de cours ? C'est quoi la bonne équation ?
Il faut un certain nombre de cours et il faut surtout un certain temps, en fait.
Ouais.
Parce que moi, j'ai mis à peu près un an avant de commencer à pouvoir en vivre décemment, on va dire. Parce que bah il faut aussi se faire connaître, ouais. il faut y aller quoi, faut montrer son enseignement et c'est comme ça que ça. Enfin moi c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait un peu les réseaux sociaux.
T'étais déjà sur les réseaux sociaux ouais.
À j'ai commencé
époque-là.
En même temps.
Ouais
en
même temps.
J'ai lancé mon Instagram yoga quand je suis sortie de ma formation.
D'accord. Ok.
Ouais. Et parce qu'on a eu une petite approche là-dessus aussi dans ma formation, il nous a dit c'est, vous avez plus le choix en fait.
Ouais. Là,
aujourd'hui c'est ça la vitrine, c'est ça quoi. Donc j'ai commencé et c'est aussi un peu ça qui m'a fait développer petit à petit, mais surtout parce que bah, j'ai commencé dans un studio, puis il y a une élève qui était là qui m'a dit oh, on cherche un prof dans tel village, est-ce que ça t'intéresse, et j'ai commencé comme ça en fait.
Après petit à petit, et puis au début on accepte un peu tout aussi, beaucoup d'opportunités.
Justement je m'étais un peu pour le coup forcée à pas tout accepter, parce que je voulais que ça reste aligné, je voulais vraiment pas accepter des choses que j'aurais pas faites si c'était que de moi. Donc j'ai refusé certaines choses. Et avec un peu la peur de me dire mais voilà, parce que je suis folle, je refuse ça, mais je pense que je voulais justement pas prendre tout. Et donc j'ai mis un peu plus de temps, certes, je pense que j'ai mis un peu plus de temps à développer, mais du coup j'ai vraiment construit ce qui me correspondait, et du coup c'était plus durable.
Et t'es restée aussi alignée.
Bon, après je suis partie un an plus tard, donc j'ai dû recommencer dans une autre ville, mais mais en un an j'ai.
Mais je crois que t'aimes bien les challenges.
Mais ouais, en à peine un an j'avais développé suffisamment pour en vivre, décemment. Ouais.
Et est-ce que tu as connu le syndrome de l'imposteur ? Du coup, on en parle souvent. Moi, j'en parle souvent dans mes contenus parce que c'est des questions, des peurs qui reviennent souvent.
Oui. Et puis c'est pas. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui va bien. Voilà. Je pense que c'est vraiment. Moi, j'appelle ça aussi une capacité de se remettre en question et de pas vivre sur ses acquis. Et donc, je pense que. Enfin, en tout cas, moi, ça arrive de façon très cyclique et très souvent. Donc je pense que... Enfin, j'imagine que ça arrive plus ou moins à tous les profs de yoga qui débutent parce que, on n'a pas forcément l'expérience, on n'a pas forcément la confiance et on n'est pas forcément à l'aise au début dans l'enseignement. Mais, bien sûr.
Et c'est quoi qui t'a le plus traversé, toi ? C'est le manque de légitimité ou c'est le fait de je vaux pas, pas encore cette valeur-là ou,
C'est pas forcément le manque de légitimité parce que j'avais des années de pratique et d'expérimentation sur moi.
Oui.
Donc je savais que j'avais une matière à transmettre parce que j'avais fait ce travail sur moi. C'est surtout de voir que le nombre de profs explose, se multiplie de jour en jour et que de me dire. Où est ma place dans tout ça ?
Ok, oui, c'est plus donc par rapport à l'environnement, par rapport aux autres, la comparaison avec les autres, la concurrence,
et qui sont déjà tellement connus et qui marchent tellement. Comment est-ce que quand on débute et qu'on est tout petit, on fait pour prendre sa place, quoi ?
Et alors avec le recul aujourd'hui, si justement tu rencontrais une jeune prof de yoga qui avait ce symptôme-là, qui ressentait ça, tu lui dirais quoi alors ?
Je pense que je lui dirais de rester elle-même parce que en fait c'est ça qui fait que tu te fais ta place, c'est que tu t'es aligné, tu transmets ce que tu as vécu et ce que tu as expérimenté. Je pense que avant tout pour moi c'est la pratique et l'expérimentation sur soi qui fait qu'on a quelque chose à vraiment donner. Et je lui conseillerais de peut-être pas tout accepter.
Ouais, justement. Ouais.
et de rester aligné avec ce pourquoi elle fait ça en fait. Se poser toujours cette question en fait. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je fais ça ? Et du coup ça a normalement du sens.
Oui. Ok, super, merci pour ces bons conseils, Marie. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, tout de suite dans l'enseignement et qu'est-ce qu'en revanche, tu as trouvé peut-être au début plus difficile, du coup ?
Ce que j'ai aimé tout de suite, c'est que, comme je te disais, dans ma formation, je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait, je me sentais à ma place et quand j'enseignais, je voyais vraiment pas le temps passer, mais j'avais l'impression que, au moment où je fermais le studio, je me disais, j'avais oublié, c'était c'est un moment où je suis
t'étais connectée
et ouais complètement
temporellement
ouais c'est clair et puis bien sûr c'est le visage des élèves à la fin des cours et puis leur retour, enfin c'est ça aussi qui nourrit et qui fait qu'on se dit je fais pas ça pour rien. C'est les retours des élèves, les petits mots qu'on reçoit, parce qu'on reçoit plein de petits mots, des lettres, j'ai reçu des mails c'est juste ça fait vraiment plaisir. Et
ce qui est le plus difficile ou ce que tu as le moins aimé, peut-être quand tu as commencé ou...
Et ben ça, je sais pas trop. J'ai...
La préparation des cours peut-être, ben, ou se renouveler.
Même pas, parce que du coup, si je suis partie dans le vinyasa au début, c'est parce que justement j'aime ce côté créatif et le fait de changer à chaque fois. Parce qu'en tant qu'élève, j'aime bien que ça change à chaque fois. Du coup, c'est même pas ça. C'est à la limite, c'est pas forcément purement dans l'enseignement. C'est plutôt c'est plutôt le l'environnement.
Tout ce qui est autour, ouais.
C'est plutôt l'environnement où, en débutant, j'étais un peu naïve en pensant que c'était le monde du yoga, donc que c'était que bienveillant, et qu'en fait, je me suis vite rendu compte que non, et qu'il fallait quand même se préserver et voilà, pas être trop dans le monde des bisounours.
Ouais.
C'est peut-être plutôt ça qui est plus dur au début. C'est de réaliser qu'en fait, c'est partout pareil.
Ouais. On revient un petit peu aussi sur le jugement des autres, le regard des autres, peut-être ce qu'ils vont penser, dire, ou de se rendre compte que oui, tout le monde n'est pas forcément effectivement bienveillant.
Et puis aussi le fait que comme on est nombreux sur le marché, ça peut éveiller des peurs qu'on te prenne ta place, des peurs qu'on te pique tes élèves, des peurs de, et donc pas forcément bienveillant envers les collègues et envers donc c'est plutôt ça qui a été le plus dur au début quand même.
Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner, donc une erreur à éviter ou un bon conseil pour commencer, si on synthétisait un petit peu justement tes débuts, ton parcours?
C'est ce que je te disais, pour moi, c'est de rester soi-même et de pas essayer de faire ce qui se fait déjà parce que ça marche, sous prétexte que ça marche ou parce que on admire tel. S'inspirer, évidemment, parce qu'on démarre tous comme ça, on s'inspire des profs qui nous ont enseigné, mais de rester soi-même et d'y mettre sa patte, en fait.
De trouver finalement donc son élément différenciateur aussi.
Pour moi, c'est finalement la simplicité, c'est de rester soi-même, quoi. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple,
c'est
le meilleur conseil que je puisse donner, je pense.
Super. Alors maintenant, on va aborder la partie yoga en ligne. Pour revenir à notre première question sur est-ce qu'il est possible de vivre du yoga en ligne. Alors, le confinement arrive, Marie, dans ta vie de prof de yoga. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
Alors j'ai tout de suite, dès le premier jour je crois de confinement, compris que mon rôle était à cette période-là de partager un maximum d'outils parce que le monde allait en avoir besoin. mais par contre j'ai refusé au début d'enseigner en ligne. J'étais vraiment fermée à ça. Vraiment, je pensais que ça pouvait pas être qualitatif, je pensais que ça pouvait pas être bien. Et j'avais déjà refusé à certains de mes anciens élèves de la ville où j'avais commencé d'enseigner en ligne parce qu'ils m'avaient demandé « Maintenant que t'es partie, est-ce que tu voudrais nous donner des cours ?» Et j'avais dit « Non, je pense que ça peut pas être... » Enfin voilà, le fait de pas être avec vous, de pas pouvoir vous ajuster, c'était pour moi pas envisageable. Et donc le confinement arrive avec pas mal de remises en question. Et donc au début, j'ai refusé. J'avais dit à mes élèves, je donnerai pas de cours en ligne, je vous donnerai des astuces, des postures, des mudras, plein de trucs, des lectures. Je vous donnerai tout ce que je peux à ma manière, mais je donnerai pas de cours en ligne. Ça a duré une semaine. Une semaine plus tard, j'avais un atelier prévu normalement qui forcément a été annulé ce jour-là. Et en fait, ça tombait un an après le même atelier qui avait déjà été annulé un an avant. Et là, je me suis dit, non, c'était un atelier sur le cœur, ça me tenait vraiment à cœur de le faire et j'avais déjà pas pu le faire l'année d'avant. Et là, je me suis dit non, je le fais quand même. Et en fait, je l'ai fait en ligne en me disant je le fais quand même. J'avais plein d'élèves d'inscrits normalement à l'atelier en présentiel, donc je le fais sur Instagram, ouvert à tout le monde et voilà, on verra. Donc j'ai donné un cours plutôt qu'un atelier quand même, c'était plus court.
Ouais.
Et en fait, c'était la révélation pour moi, quoi. J'ai eu pas mal de monde, donc je ne m'attendais pas à ce point les gens aient besoin de ça. Et déjà je me suis régalée pendant le cours, mais en plus après le cours j'ai reçu au moins une cinquantaine de messages assez incroyables, avec vraiment des témoignages puissants, vraiment des gens me remerciant, me disant qu'ils ont... ça a été un bouleversement pour eux. Et là, je me suis dit, ok, c'est encore plus puissant que ce que j'imaginais. Non seulement on peut faire du qualitatif en ligne, on peut faire quelque chose de bien, mais en plus, ça a un impact tellement plus important que ce que je pensais. Donc bah j'ai commencé, enfin j'avais prévu de faire ce cours et puis de voilà de voir, et en fait à partir de là j'ai commencé à en donner un par semaine, puis deux, puis trois, puis j'ai plus jamais arrêté.
Voilà, on est quelques mois après le confinement et j'y suis toujours.
Et voilà, une vraie vocation est née.
Et du coup, donc c'est ce qui t'a guidé vers ton nouveau projet At Home.
Ouais, bah oui, oui, clairement, c'est que j'ai compris à ce moment-là que c'était quelque chose déjà qui me plaisait vraiment, où je me sentais encore plus à ma place, parce que le fait de pouvoir amener cet outil dans le quotidien des gens, chez eux, le fait de pouvoir permettre à des gens qui n'osaient pas forcément pousser la porte d'un studio, ou qui avaient peur justement de se regarder des autres, ou de ne pas être à la hauteur, ou qui se sont dit « bon bah voilà, je suis chez moi, je suis fermée chez moi, je vais m'y mettre et puis on verra bien ». Et le fait aussi de me rendre compte que le fait d'être seule chez eux, les élèves s'autorisent plus à lâcher certaines choses avec moins de pudeur du coup, et du coup à être vraiment eux-mêmes et à vivre le truc et à se laisser traverser par ce qui est là. Et je me suis dit que oui, c'était... J'en ai oublié la question, mais...
non, je disais que c'est ce qui t'a emmené, du coup, à créer le projet At Home, ouais, à vouloir en fait, aller plus loin, en fait, dans cette aventure, parce qu'effectivement, donner des cours en live sur les réseaux, c'était la première étape, et c'était l'étape du confinement, mais c'était comment donner suite, en fait, à cette nouvelle aventure. Donc aujourd'hui, tu as le projet At Home. Est-ce que tu peux nous parler du concept, justement ?
Oui, bah du coup, c'est un peu la continuité hein, de ce que je faisais pendant le confinement et l'après-confinement. J'avais continué à donner deux cours par semaine en ligne, un dynamique et un yin. Et j'ai cette décision de lancer mon site et At Home, je l'ai prise pendant le confinement. Mais certains de mes élèves, en fait, qui ont créé une cagnotte pour me remercier. Et je me suis dit que j'avais envie d'utiliser cette cagnotte pour un projet qui serait utile, et du coup voilà, c'est ça qui a lancé vraiment le truc. Et donc At Home, c'est deux cours en ligne en direct par semaine, mais j'ai vraiment eu l'intention de créer comme un cocon, vraiment un espace où les élèves peuvent se connecter et trouver plein de choses comme un studio finalement. Donc il y a des vidéos sur les bases, comme des tutos un peu sur les postures et les bases de la pratique. Il y a un rituel du matin qui change chaque semaine en fonction du thème de la semaine, que je tourne, que j'enregistre en fait et que je mets à disposition pour la semaine. Il y a évidemment les replays des cours en live, et puis après des petits bonus, des tarifs préférentiels sur des événements ponctuels, etc. C'est vraiment l'idée de créer une communauté avant tout en fait. Un groupe, il y a un groupe Facebook privé pour les élèves abonnés, pour qu'ils puissent échanger entre eux. Et voilà. Voilà ce qu'est At Home.
Et du coup, c'est des formules d'abonnement selon... Ouais. C'est ça, c'est des abonnements...
C'est des abonnements mensuels, sans engagement. Il y a deux formules, en fait. Enfin, il y a trois formules, mais la première formule, c'est une formule gratuite pour accéder aux bases et au rituel du matin.
Donc, pour avoir... Donc, ça, qui est un accès, en fait, gratuit. C'est un accès gratuit. Entre guillemets, en échange de l'adresse mail, on va
Exactement.
Dire.
Exactement.
Ouais.
ouais.
C'est ça. Parlons stratégie un petit peu.
Il faut se créer un compte sur le site pour accès à ça. Et puis après, les deux autres abonnements. Donc, un abonnement avec un cours par semaine, au choix, soit Vinyasa, soit Yin. Ou alors les deux cours par semaine.
Et comment tu as créé tes offres du coup ? C'est toi qui as imaginé ça comme ça ? C'est uniquement par rapport à ce que tu as fait pendant le confinement ou t'es passé par un sondage ?
Je suis passée par un sondage. J'ai fait un sondage vraiment précis, avec plein de questions que j'ai envoyées à mon audience et j'ai eu beaucoup de réponses. Donc ça m'a vraiment aidée à cibler les horaires, le choix des horaires des cours, les jours des cours, la fourchette de budget, quel type de yoga, enfin vraiment pour savoir, pour essayer d'adapter au mieux mon offre. Et puis j'ai été aidée par des personnes qui travaillent dans le marketing, j'ai un ami qui connaît un peu bien ces filons-là, qui a une collègue qui m'a aussi aidée sur l'aspect justement pricing. Et après sur le site, tout l'aspect technique du site aussi.
Donc qu'est-ce que en fait, toi, t'as brainstormé, t'as apporté un peu tes idées, et puis après, donc, tu t'es fait accompagner dans ton projet, en fait, à la fois pour finaliser les éléments marketing, on va dire, et de vente, et à la fois sur la partie technique.
Ouais. J'ai fourni le contenu, on va dire, et puis après, j'ai fait confiance à des professionnels de chaque, chaque secteur dont j'avais besoin.
D'accord. Et donc, si on récapitule, les étapes du projet, du coup, ça se passe comment? Si tu pouvais faire aujourd'hui un petit peu le rétro-planning de tout ce projet.
J'ai commencé par le sondage auprès de mes élèves pour évaluer si vraiment ils avaient besoin, ce besoin-là et cette envie. Faut pas aller un peu à l'aveugle là-dedans. Ensuite, du coup, j'ai beaucoup échangé avec cette amie donc qui m'a beaucoup aidée dans ce projet. Donc, on a fait brainstorming ensemble pour choix du nom, par exemple, etc. et déterminer vraiment l'offre. Donc, il m'a aidée à déterminer mon client idéal.
Alors, qui est ton client idéal, Marie?
Ça reste quand même assez large.
Oui, mais c'est...
Et d'ailleurs, c'est une bonne question parce que mais c'est quand même plus ou moins, je crois, de mes souvenirs féminin.
C'est une question piège.
Après, c'est par rapport à mes statistiques aussi de mon audience. Oui. Donc la fourchette de tranche d'âge, c'est 25, mais c'est large, c'est quand même 25-55.
Ouais.
Dans la majorité des personnes qui me suivent. Donc voilà, plus ou moins mon client idéal.
Et ton positionnement, ta niche par rapport à ça, enfin toi, ton message, est-ce que t'as quelque chose
En tout cas, mon enseignement est destiné à rendre le yoga accessible à un maximum de personnes. J'aime pas trop les cours avec des niveaux, par exemple.
Oui.
J'aime que le yoga soit, enfin pour moi, une des définitions du yoga, c'est l'union.
Oui.
Et du coup, j'aime pas ce côté catégorie. Donc, c'est vraiment d'essayer de rendre cette science, cet outil accessible au plus grand nombre, et du coup d'adapter le yoga à la personne et pas l'inverse en fait.
D'accord.
Donc voilà, après j'ai forcément dans mon enseignement, c'est un yoga vinyasa plutôt dynamique et yin plutôt doux.
Ouais.
Donc
tu réponds aussi finalement à plusieurs besoins, à plusieurs attentes. Ok, donc brainstorm.
Ensuite, du coup, il y a eu... Enfin, après, c'est parti, quoi. Donc, shooting, rédaction des textes du site internet, pricing. Donc ça, j'en ai discuté vraiment avec une personne qui travaille dans le marketing et la communication et qui m'a un peu conseillé. Et puis, en fonction aussi des réponses que j'avais eues dans le sondage. Et puis après, voilà, shooting, tournage de vidéo, création du site... bon, ça a pris du temps, des mois.
Ouais.
Puis lancement du site début septembre. Et puis après, c'est parti.
Et est-ce que t'as rencontré, même si t'as pas tout fait toi-même, est-ce que t'as rencontré des difficultés dans toute cette aventure ou des moments de doute, des moments difficiles, des choses que.
Oh là là,
prise de tête parce que
Ouais, j'ai eu un été parce que du coup, donc le lancement, enfin la première idée du projet, je crois que c'était début avril. On a vraiment commencé à se plonger dedans. Donc avril, ça a été plutôt une phase de réflexion, sondage, etc. Mai, juin, c'était plus on a commencé tournage, photo, vidéo, etc. Et juillet, août, c'était vraiment la construction du site. Donc ça, c'était plus prise de tête pour moi parce que c'est un monde que je connais pas du tout. Donc même si c'est pas moi qui ai construit mon site, mais il fallait que je sois présente, il fallait que je... Enfin, au début, on me parlait avec des termes, je comprenais rien, donc je disais au gars, là, c'est chinois, faut pas falloir me parler façon yogi, parce que c'est pas possible. Et j'ai eu des... Ouais, en fait, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pendant tout l'été, jusqu'à ce que le site soit mis en ligne début septembre, avec, un peu la pression de, il faut que ce soit prêt en septembre, donc pas le choix, les tournages, tournage des vidéos, des bases, etc., c'était la première fois que je faisais ça, c'était vraiment, tout était nouveau pour moi, donc d'un côté c'était génial parce que j'ai appris plein de choses, et d'un autre côté c'était fatigant.
Challengeant et énergivore,
challengeant, j'ai passé des nuits sur les nerfs, il y a eu... pas mal de choses qui m'ont un peu pris la tête quand même dans le site, mais c'était en même temps hyper... Par exemple, je pense que le truc qui m'a le plus pris la tête, c'était de faire mes conditions générales de vente.
Oui, oui, par exemple.
Rédaction des conditions générales de vente. Alors là, prof de yoga...
C'est deux mondes.
Ouais, c'est deux mondes. Ça m'a bien... Tu vois, par exemple...
Oui, c'est un bon exemple.
Ouais.
Des petites choses...
Mais bon, il faut passer par là et c'est...
Et du coup, aujourd'hui, sur quoi tu as la main, toi? Sur, c'est toi qui upload tes vidéos quand tu en fais? C'est, aujourd'hui, ouais. T'es en autonomie par rapport
oui,
à tout ça?
Plus ouais. ou moins. Après, j'ai, l'agence gère quand même tout ce qui est sécurité du site, maintenance du site.
D'accord, ça, t'as gardé ça, cette partie-là dans les mains de l'agence.
C'est trop ah ouais. complexe et trop délicat. Une mauvaise manip peut planter le site totalement, ouais. donc ça, clairement non. Mais par contre, oui, tout ce qui est... bah oui, uploader les nouvelles vidéos chaque semaine.
Tu les héberges sur YouTube en lien en répertorié, c'est ça ?
Exactement. Ouais,
d'accord.
C'est en tout cas l'option que j'ai choisie pour l'instant. Je vais rien n'est définitif, mais je teste.
Et tes cours en ligne, du coup, tu passes par quelle plateforme ?
Par Webinar Jam.
Webinar Jam, ok. Ouais,
pareil, c'est un test. Donc, ouais. J'en connais pas forcément d'autres, donc de nom, mais j'avais déjà testé Webinar Jam. Et... Donc je vais voir, je pense que c'est des choses qui s'ajusteront petit à petit. Et sinon, voilà, après oui, tout ce qui est mise en ligne des nouveaux articles,
oui.
etc., c'est moi qui
newsletter,
gère.
Newsletter, maintenant tout ça, c'est toi qui gère. Ouais. Ok. Et alors justement, comment tu t'organises Comment tu t'organises pour tourner tes vidéos, préparer tes lives, écrire tes newsletters, créer du contenu sur Instagram? Alors, est-ce que tu as une organisation spécifique? Est-ce que tu peux nous parler de ça, Marie?
Oui, je peux en parler. Je crois que je suis pas un super bon exemple.
Marie se cache. Je pense qu'en termes d'organisation...
J'en parlais à mes élèves en disant que je suis... Si les notions d'Ayurveda te parlent, Vata.
Oui.
Et c'est un peu l'éparpillement et la difficulté à poser des cadres et à être très rigoureux dans l'organisation. C'est un peu mon cas. Alors, je suis quelqu'un d'assez maniaque et perfectionniste, mais par contre, faut pas trop de trop de cadres dans tout ça. Donc,
bon, bah, tu t'en sors très bien quand même. Alors, comment
bien.
Tu fais du
coup? Je sais pas. Je fonctionne comme ça. J'ai pas vraiment d'organisation, en fait. Je fais un peu au feeling. Je suis un peu ce qui me vient. Quand j'ai une inspiration, je la note. Ça peut être en pleine nuit et je peux faire un cours, préparer un cours à des moments vraiment absurdes. Quoi qu'il en soit, en général, normalement, tout est prêt à temps. Donc jusqu'à maintenant, je m'en sors.
Ouais.
Pour tout ce qui est communication, Instagram, tout ça, newsletter, j'ai pas du tout de planning prédéfini. C'est vraiment... je sais qu'il faudrait que... je finisse par quand même m'organiser un peu mieux et peut-être que ça me ferait gagner du temps. Mais c'est vrai que les posts Instagram, c'est quand ça me vient, quand parfois je me dis « Oh là là, ça fait longtemps, je suis transparente !» Et parfois j'ai une inspiration, parfois j'ai plein d'inspirations, donc ça peut être tous les jours, parfois ça peut être... Enfin, c'est vraiment décousu, je sais que c'est pas bien selon la méthode, voilà. Mais bon, c'est...
Pas de jugement, non. Pas de jugement.
C'est un peu décousu. Et pareil pour les newsletters, généralement, je n'ai pas envie d'inonder mes élèves et mon audience d'informations redondantes. Donc, généralement, j'envoie une newsletter vraiment quand j'ai des infos à partager, des événements, des articles, nouveaux articles ou que j'ai envie de leur partager quelque chose, une recette ou un truc. Et sinon, bah, après, les élèves, les abonnés reçoivent un mail régulièrement chaque semaine pour prévenir du nouveau thème et de la mise en ligne du nouveau
rituel. Oui, il y a quand même cette partie-là qui est quand même régulière.
Il y a quand même un côté un peu sérieux. Enfin, non,
t'as été obligé de t'y mettre, quoi, quand même.
Oui, non, mais puis ça, pour le coup, c'est pas du tout contraignant pour moi. Oui. Enfin, c'est... ça fait partie du...
Alors oui, pourquoi c'est pas contraignant? Enfin, je développe un petit peu, mais parce qu'effectivement, c'est ton contenu, finalement, que tu partages dans ta newsletter.
Oui.
Donc c'est un petit peu aussi ce que j'explique quand je dis on peut très bien partir d'un contenu principal hebdomadaire. Mmh. C'est ton cas, donc, avec ta morning routine. Et tout simplement utiliser ce contenu pour écrire de manière régulière et juste partager et indiquer que c'est en ligne.
Ouais.
Donc, c'est un très bon exemple de comment je peux optimiser un contenu et en faire plusieurs communications, en fait.
Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas trop, peut-être, pour les abonnés? Parce que, bon, ils savent que le thème change chaque semaine. Ouais. Et je leur ai demandé. Et en fait, à l'unanimité, tout le monde m'a dit non, j'aime bien recevoir mon petit mail.
Ah bah oui, dimanche. Je te confirme. Ouais. Et je pense même que si un jour
tu oublies, oui. Enfin, oui. Comme tu fais des choses à la dernière minute et que c'est pas programmé. Si jamais un jour, voilà, tu verras que oui. Probablement les gens te diront, bah, je comprends pas, j'ai pas reçu mon mail, mais c'est sûr, ouais. C'est certain.
Ouais. Non, mais
donc,
ça, c'est,
ça crée des habitudes.
Et ouais, et puis bah, ils m'ont dit, là, parce que je leur ai posé la question cette semaine, ils m'ont dit, non, moi j'aime bien, ça me motive pour la semaine, j'en profite pour poser mon intention ou pour, voilà. Donc, voilà.
Bon, donc il y a quand même un soupçon d'organisation.
Ouais,
En tout cas, on note l'intention quand même de mieux s'organiser dans les mois à venir.
Après, ça, c'est vraiment pour moi, ça me regarde moi et quoi qu'il en soit, tout est en ligne dans les temps. Donc,
c'est clair, c'est le principal.
Ouais.
Et puis alors, bah, comme tu fais énormément de vidéos en ligne, est-ce que tu peux nous donner peut-être les bons outils ou les bonnes astuces pour un bon setup? Parce que c'est souvent le point qui revient aussi.
Alors, je suis loin d'être experte. Hein. Je teste moi, mais je vais te dire ce que j'ai,
ce
que j'utilise. Déjà un tapis de yoga. Après, j'ai acheté une webcam parce que la caméra de mon ordinateur est assez médiocre en qualité d'image. Donc, j'ai acheté une bonne webcam. Et j'ai acheté un micro-cravate puisque je pratique et que je bouge et du coup je voulais quand même que ce soit audible, que je sois de dos, de face, de profil. Donc j'ai un micro-cravate qui est léger, qui est tout petit avec une petite base aussi à la ceinture. Et il est en Wi-Fi, je crois.
En Bluetooth,
ouais, peut-être. Donc du coup j'ai pas de fil, je suis pas branchée à mon ordinateur. Donc voilà ce que j'utilise. J'ai pas investi dans de la lumière parce que jusqu'à maintenant j'avais toujours plus ou moins suffisamment de lumière.
Luminosité naturelle est ok.
Oui.
Bah, c'est mieux. Hein,
mais... Ouais. Là mes cours du soir ils commencent à faire nuit, mais pour la lumière chez moi j'ai l'impression que c'est bien.
Ouais.
Donc voilà, j'ai essentiellement ça, le micro, la webcam, l'ordinateur évidemment. Et
Un conseil en termes de peut-être de distance, tu sais où mettre, enfin à peu près à quelle distance du tapis, et puis aussi à quelle hauteur. J'ai eu cette question plusieurs fois.
C'est la distance en fait. J'ai justement spécialement choisi cette caméra là parce qu'elle me permettait d'augmenter l'angle.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de webcams où on peut pas changer l'angle et la majorité des webcams, je crois que c'est 78 degrés et ça me suffisait à peine. Donc moi, cette webcam-là me permet de faire un angle de 90 degrés et du coup d'avoir une possibilité d'un recul moins profond. Mais j'ai quand même, je pense, 3 mètres de recul à peu près.
Ouais, moi, je conseillais 2 mètres, tu vois, donc 3 mètres.
Je pense que j'ai, on va dire, allez, peut-être 2 mètres 50 du milieu de mon tapis à la caméra, puisque forcément, ça va coller au mur, mais...
Alors, je propose pour les auditeurs, je mettrai les notes si tu veux bien me donner les références de la caméra et du micro et je les mettrai dans les notes de l'épisode. Et en termes de hauteur.
Et donc, de hauteur, alors. Ça, c'est pareil. Un jour, il faudrait peut-être que je montre le backstage. Parce que
c'est des livres, des chaises. Mais je crois que
c'est je viens d'emménager et je n'ai pas de chaise. Et je n'ai pas de meubles. Donc, à chaque fois, je me dis. Alors, le premier cours, je crois que c'était sur un carton. Parce que j'étais dans les cartons.
Tu déménageais.
Voilà.
Parfait.
Là, j'ai viré les cartons. Donc, j'ai ce qui me sert de table basse, on va dire, sur laquelle je mets des livres. Donc, la hauteur, je pense que c'est à peu près un bon 50 cm du sol pour poser l'ordinateur. Et sur l'ordi, il y a du coup la caméra qui est
posée, qui est un petit peu plus haut. Okay,
Donc, en fait, maintenant j'ai mon repère, je sais qu'il faut que je suis assise sur mon coussin de méditation et il faut que vraiment mon visage arrive au milieu de l'écran quand je suis assise face à la caméra. Et après, dans mon recul, du coup, j'ai.
C'est ok quoi.
On voit entièrement, on voit.
Parce que c'est vrai que selon où on positionne l'ordinateur, même soit on est plus ou moins mis en valeur quoi. Enfin, c'est plus ou moins sympa en termes de vidéo, donc tant qu'à faire, autant prendre les bonnes astuces. Hein. Ok, et puis je crois qu'on a tout abordé du coup, le son, l'image, le recul, effectivement. Ouais. On a tous les éléments, donc super, merci Marie pour ces conseils. Et puis alors, c'est peut-être un peu tôt pour te poser cette question. Si tu voulais aborder quelques chiffres, est-ce que ça... parce que tu nous as dit que c'était possible de vivre du yoga en ligne. Donc effectivement, est-ce que par rapport à du présentiel peut-être, qu'est-ce qui est plus confortable? Est-ce qu'on peut réussir à en vivre
voilà, de manière, enfin, décemment, en fait, hein. Et puis aussi peut-être aborder le coût de ce projet, puisque tu t'es fait accompagner, puisque tu as délégué pas mal de choses. Donc effectivement, peut-être que ça représente une enveloppe, et de manière, en fait, à juste pouvoir aussi guider les auditeurs et auditrices.
Pour ta première question, du coup, c'est, je pense qu'on ne peut pas vraiment finalement comparer à du présentiel, parce que déjà le nombre d'élèves n'est pas le même, du coup le tarif n'est pas le même non plus si on ramène au cours. Et puis l'offre en fait est complètement différente aussi. Mes cours en ligne sont totalement différents de mes cours en présentiel, puisque j'ai aussi moi choisi l'option de... J'utilise pas par exemple une appli comme Zoom où je peux voir les élèves, puisque j'ai beaucoup d'élèves, donc je pourrais... Même avec Zoom.
Oui, t'as choisi du live, entre guillemets.
J'ai choisi du live où je ne vois pas les élèves.
Ouais.
Donc c'est un choix, hein. C'est parce que j'avais vraiment cette idée de groupe et de communauté et de nombre qui a été très très fort pour moi pendant le confinement, et du coup c'est ça que j'ai choisi. Et donc mes cours sont assez différents. Donc l'offre est vraiment différente, puisque je veux surtout pas justement aller dans du trop technique et trop physique pour que les gens puissent éventuellement se faire mal et être mal positionnés. Donc c'est le choix que j'ai fait. Du coup, c'est pas. Enfin, je pense qu'on peut pas vraiment comparer. Enfin, c'est très différent, parce qu'en présentiel, il y a. Enfin, j'avais beaucoup moins de travail à côté.
Oui.
À part préparer mon cours et être sur place. Là, j'ai du coup toute la communication, les newsletters, etc. Donc, j'ai moins de temps en direct, mais beaucoup plus de temps en coulisses.
Sur du travail de communication, ouais. Ouais.
Et du coup, là, pour te donner une idée, donc là, je donne 2 cours par semaine en direct pour Atome. Et pour 2 cours par semaine, je pense que je suis occupée quasiment à plein temps, en tout cas pour l'instant, parce que c'est les débuts et que du coup, j'ai toute la mise en place et qu'il faut que je me familiarise aussi avec tout ça. Mais ça m'occupe quand même pas mal. Et donc, en vivre, oui, je pense qu'il faut du temps, un peu de patience, parce qu'il faut aussi faire connaître
et faire venir un certain nombre d'élèves.
Pour le coup, il faut du volume pour en vivre en ligne. Enfin, après, ça dépend de l'option qu'on choisit aussi, parce qu'on peut choisir.
Et des tarifs et de tout ça. Mais
pour moi, il faut du volume. Voilà, je sais pas ce que je peux te dire.
C'est selon toi. C'est quoi la base? Enfin, je sais pas si on avait une base pour démarrer d'un nombre d'élèves potentiels. Est-ce qu'on peut mettre un chiffre? Est-ce qu'on peut se dire, si on veut... si on veut vivre uniquement de ça.
Pour mon offre à moi, encore une fois, parce que c'est mon pricing, mon besoin à moi, il me faut environ entre 70 et 80 élèves pour régulier par mois pour en vivre.
Voilà. Donc après, tout le job derrière, effectivement, là, ça va être de garder ses élèves, de toujours apporter, les fidéliser, d'animer la communauté, de communiquer, d'en trouver d'autres.
Ouais. Exactement. Après, ça dépend aussi de ce qu'on appelle vivre et de quoi on a besoin pour vivre.
Souvent, je donne la définition de ce que j'entends par vivre correctement. Ouais. C'est une manière de pouvoir vivre de sa passion sans se poser trop de questions.
Et
assez libre. C'est pas forcément l'excès, les possessions, les choses. Je donne régulièrement les définitions de ce qu'est pour moi être un yogipreneur à succès. Ouais. Et effectivement, on n'est pas.
Parce qu'en plus, moi, je suis pour le coup. Je vis avec très peu, je me contente de très peu, donc pour moi, vivre décemment de mon activité, c'est à peu près 75 élèves.
Et aujourd'hui, tu continues d'autres choses à côté, d'autres cours en présentiel, d'autres cours privés, ou vraiment tu te concentres à 100% sur le online?
J'ai quelques cours privés, mais ponctuel, pas forcément régulier. J'ai un peu freiné tout ça parce que j'avais besoin d'avoir un peu plus de recul sur le temps que me prenait cette activité en ligne, et puis sur d'autres projets que j'ai envie de développer. Donc j'ai gardé quelques cours particuliers. J'espérais que le temps me permette de donner quelques cours à la plage, mais ça n'a pas été possible.
L'hiver est arrivé vite.
Voilà, l'hiver est arrivé du jour au lendemain. Mais donc là, essentiellement quand même, je suis concentrée sur Atome.
Ouais.
Avec quelques petites exceptions.
Ouais. Non, mais c'est bien aussi parce que c'est vrai que ça montre aussi que il faut pas trop se disperser non plus et donner un certain temps au projet pour le faire vraiment vivre, le rendre autonome.
Ouais.
Et du coup, donc le coût d'un tel projet ou
alors ça reste aussi je pense très variable parce que ça dépend de ce qu'on choisit. Moi j'ai choisi de tout héberger sur mon site, donc forcément j'ai un site assez complexe avec plateforme de paiement en ligne, avec système de membership, avec le compte, enfin création de compte perso, accès perso, etc. Enfin système de restrictions de contenu en fonction de l'abonnement, enfin
c'est vraiment complexe, c'est des algorithmes et des paramètres dans tous les sens, ouais.
Donc c'est un site qui est quand même assez complexe. Et en plus, je vais te donner les tarifs français, parce que je l'ai fait faire moi par une agence qui est basée en Asie. Avec c'est des amis en fait que je connais qui travaillent là-bas, et donc il n'y a pas toutes les charges qu'on a ici. Mais j'avais fait faire un devis pour le même. Enfin, pour la même chose, en fait, en agence française, le devis était entre 5 000 et 7 000 euros pour juste le site, sans forcément les photos, les vidéos, le contenu, etc.
Oui, sans la partie, sans les visuels, sans le contenu, sans rien, quoi. Juste
sans
pour,
les shootings. Et moi, l'agence à laquelle j'ai fait faire mon site, on est... alors, c'est pas encore tout à fait fini, mais parce qu'il va y avoir des ajustements en fonction de ce que j'ai demandé en plus, mais on est entre 2 000 et 3 000 euros. Quoi. Ouais, 50%.
Mais ça reste quand même un investissement.
Ça reste un investissement. Puis en plus du site, j'ai payé quelqu'un pour la gestion du projet.
Ouais.
Pour du coup, les photos, les vidéos et toute la gestion du projet. Mettre en lien tout ce petit monde, choisir... Donc oui, c'est un vrai investissement pour moi. Après, c'était mon choix. J'avais envie de... Enfin, je suis perfectionniste, comme je disais, donc j'aime bien
que quand j'y vais,
quoi. Je voulais vraiment faire un truc à l'image de ce que j'espérais. Et puis en plus, j'avais pas de site. Donc c'était l'occasion pour moi aussi de faire tout en
du
un.
Du coup, t'as tout fait en même temps.
Donc du coup, la globalité pour moi représente environ 8000 euros, je pense, de la création de mon site.
Là, c'est vraiment... Oui, mais en même temps, c'est vraiment une décision entrepreneuriale pour développer ton activité de yoga et un choix d'avancer sur du online.
J'ai eu cette cagnotte de mes élèves qui a été un peu l'impulsion et qui a du coup... qui m'a boostée à lancer tout ça. Et j'ai eu aussi le fait que cette année, j'avais prévu de partir à l'autre bout du monde, en formation, voyager, etc. Et qu'en fait, je me suis dit, tant pis, cet argent...
Oui, t'as investi autrement.
J'ai investi autrement et ça sera...
Et je suis sûre que ça sera rentable.
Ça sera, en tout cas, je l'espère.
Non, mais c'est bien. Alors, effectivement, après, moi, là où je souhaite juste relativiser aussi, c'est qu'au-delà de se faire accompagner, ce qui me semble indispensable sur des projets comme ça, mais en termes de technique, on peut aussi aujourd'hui faire des choses soi-même. Alors, effectivement, sans passer peut-être par quelque chose comme ça de tout en un qui va être géré par une entreprise, par un spécialiste. Mais il y a quand même beaucoup d'outils qui peuvent permettre, malgré tout, de donner des cours en ligne, de développer des abonnements membership, de développer des programmes en ligne. Donc voilà, il y a effectivement le choix d'investir, d'avoir un produit fini et d'avoir quelque chose comme on le souhaite et de déléguer. Mais il y a aussi la possibilité soi-même de commencer par faire les choses avant d'arriver peut-être à ce step-là où on va pouvoir mettre le projet dans les mains de quelqu'un. Mais on peut quand même commencer à faire du yoga en ligne, comme d'ailleurs tu as commencé simplement en streaming. Ouais, et puis, je me souviens que tu mettais tes cours en replay sur le groupe privé Facebook. Ouais. Donc ça, c'est des petites stratégies qui ne coûtent rien, on peut commencer aussi comme ça.
On peut commencer comme ça.
Et puis, au fil de l'eau, justement, si on voit que ça nous plaît, qu'on est aligné avec le yoga en ligne, peut-être aller plus loin dans le développement de ces outils. Et aujourd'hui, comment tu gères du coup ta communication et ta visibilité et alors, je voulais surtout parler de ta relation à Instagram parce que je trouve que des fois, on fait un peu tout un truc d'Instagram, mais comme je l'ai expliqué dans un de mes derniers podcasts, j'estime qu'Instagram, c'est un outil et que c'est nous qui le pilotons et qui en faisons ce qu'on veut. Et donc, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce sujet.
Mais moi, Instagram, c'est... sans Instagram, j'en serais pas là. Donc, clairement, merci Instagram. Ouais. Parce que c'est ce qui m'a permis de me faire connaître pendant le confinement. Et du coup, j'ai une bonne relation.
J'aime Instagram.
Après, comme tu disais dans le podcast, exactement, c'est c'est nous qui choisissons le temps qu'on y passe et ce qu'on en fait, en fait. Hein. Donc moi, c'est avant tout un outil de communication de mon activité. Après, bah oui, de temps en temps, j'aime bien partager un peu
ce que tu manges.
Voilà, ma vie. C'est parce que je suis un être humain avant tout et que du coup, bah, voilà, j'aime bien montrer voilà, la vie de ma plage.
Le chat.
C'est ça, le chat.
Un tout. Vrai conte de yogi, quoi.
C'est ça. Le chat, le cliché, quoi. Mais non, c'est un outil que j'aime bien utiliser et puis que j'aime aussi utiliser pour enfin, personnellement, pour suivre un peu. Alors, je suis pas très... très assidue et très suiveuse d'Instagram parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais j'aime bien.
Mais peut-être que justement aussi, tu l'utilises, comme on disait, à bon escient et au service de ton activité et de ta communauté.
Ben en fait, c'est pour ça que j'ai lancé mon compte Instagram. Voilà. Donc,
Et du coup, y a pas les... tu rentres pas dans les sujets justement de comparaison, d'être toujours...
Après, je pense qu'on est... ça nous traverse.
C'est inévitable.
Voilà, y a forcément, quand j'ai... surtout au début, maintenant moins, mais surtout au début, quand j'ai commencé, j'avais un tout petit compte et je me disais, oh là là... Enfin, c'est, je suis nulle quoi. Comment il faut faire? Je sais pas faire. Il y a plein de profs qui. Enfin voilà. Oui, forcément, j'ai eu ça. Et du coup, j'ai vite compris que ouais, non, ça pouvait. En fait, ça me servait pas. Ça me desservait plus que de me servir. Et que bah en fait non, on se fait sa place petit à petit, il faut de la patience, il faut beaucoup de patience.
Ouais, c'est ça. Et aussi qu'on n'a pas besoin forcément de millions d'abonnés, la preuve, pour créer une communauté, développer un business.
Non, il suffit, c'est comme tu le dis très bien dans tes podcasts, hein, il suffit d'avoir une audience qui est engagée et
qualifiée.
Ouais. Des millions, hein, c'est clair.
Et alors, est-ce que tu as d'autres projets en cours, Marie? D'autres formations? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il se trame des choses.
Ouais, j'avoue que là, j'ai une fin d'année très chargée en formation. Je devais donc normalement partir au Pérou cet été pour faire un deuxième 200 heures. Et du coup, je le fais en ligne. Donc, ça commence là, cette semaine. Donc, j'ai ça qui arrive, qui va bien m'occuper pour approfondir, pour aller encore, aborder d'autres façons, d'autres perspectives du yoga. C'est une approche très holistique. J'ai aussi entamé là, début octobre, une formation en astrothérapie qui dure plusieurs mois sur plusieurs week-ends. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup depuis quelques années parce que j'ai fait beaucoup de travail personnel là-dessus. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à me connaître grâce à cet outil et je trouve vraiment fascinant. Et en plus, je fais vraiment le parallèle avec le yoga et l'ayurveda qui sont donc forcément des choses qui me parlent beaucoup. Donc voilà, astrothérapie. Et je fais aussi une formation fin octobre sur quelques jours de plutôt des techniques respiratoires pranayama issues du kundalini malayen entre autres parce que c'est des techniques qui me fascinent aussi, qui sont pour moi très très puissantes en les utilisant pour moi, et donc j'ai envie de mieux les connaître, de les maîtriser et de pouvoir les partager à mon tour. Voilà
pour les projets. Formation continue alors.
C'est clair.
Et pas des moindres, du coup.
Oui, là, c'est un peu en même temps, mais bon, c'est
pour ça que tu vas devoir t'organiser.
Oui, exactement, je vais apprendre.
Et si tu recommençais from scratch, comme on dit, Marie, par quoi commencerais-tu, du coup? Est-ce que tu imagines aujourd'hui, tu deviens prof de yoga actuellement. Est-ce que finalement, tu te lancerais directement en ligne? Est-ce que tu penses que tu irais quand même à la porte des studios?
Alors, hors contexte actuel, parce que du coup, les studios, là, dans pas mal d'endroits sont fermés.
Oui.
Mais je pense que je commencerai en studio, parce que je regrette pas du tout, et parce que je pense que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observation sur les élèves, sur avoir vraiment le corps en face de soi, et savoir, en fait, dans chaque posture, où est-ce que ça pêche de façon générale, comment ajuster les élèves, et c'est ce qui me permet moi aujourd'hui, sans voir mes élèves, de savoir
de mieux les guider et de
J'ai eu souvent ce retour de mes élèves me disant mais c'est incroyable, tu ne nous vois pas mais tu sais exactement à chaque fois nous dire ce qu'il faut au bon moment. Et c'est parce que je pense j'ai enseigné pas mal en présentiel et que du coup je sais à quel moment le genou va à l'intérieur, je sais à quel moment on relâche le ventre, et donc je pense que pour ça, je recommencerai en studio.
Oui. Ou en tout cas, avec des vrais gens en face.
Voilà, le temps d'avoir assez d'observation.
L'un n'empêche pas l'autre, ne doit pas empêcher l'autre, bien au contraire, ouais. Ok, alors avant de te poser les 10 petites questions pour mieux te connaître, est-ce que tu as un tout dernier message ou conseil que tu voudrais partager?
Pour les enseignants, j'ai un conseil, c'est de jamais arrêter d'être un élève avant tout et de continuer à se former et surtout de pratiquer. Et ça, c'est, je pense, une des premières choses que mon enseignant nous a dit, c'est... le jour où vous arrêtez de pratiquer, vous arrêtez d'enseigner, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment ressentir, qu'on doit vraiment vivre. Et donc, pour moi, ouais, c'est jamais arrêter d'être élève, de jamais se reposer sur ses lauriers et de toujours pratiquer et toujours apprendre. Parce qu'en fait, on pourrait apprendre toute sa vie et on n'aurait pas fait le tour encore de cette richesse infinie de yoga. Donc, voilà, c'est vraiment... garder aussi beaucoup d'humilité puisque c'est une science millénaire et que qu'on en sait quasiment rien, donc garder aussi cette humilité et voilà, et rester un élève.
Super, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les maîtres ou les profs qui t'inspirent le plus dans le yoga, ou enfin le ou les comme tu veux?
On va dire que pour l'instant, vu que j'ai fait qu'un 200 heures, ça va être mon enseignant, c'est Mathieu Baudron qui m'a porté tellement, qui a un enseignement très très riche et qui est passionné. Et donc oui, Mathieu, j'ai beaucoup beaucoup de reconnaissance parce que j'ai adoré son enseignement et que c'est grâce à lui que j'ai trouvé la confiance et l'envie vraiment d'enseigner à mon tour.
Qui donc, enseigne d'ailleurs maintenant en ligne, hein, puisque là il a actuellement un 200 heures qui est en cours d'ailleurs, Yoga Teacher Training qui est en cours.
Donc voilà, ça serait, si je devais en dire qu'un, ça serait Mathieu. Mais après, sinon, évidemment, ma toute première prof, qui est mon gourou pour la vie,
hein. Bourgogne.
qui est repartie. En fait, c'est une Coréenne.
Ah.
Et elle était venue s'installer en Bourgogne. Improbable qu'elle atterrisse là. Et elle a atterri là, dans ce village où je vivais. Et c'est pour moi juste quelque chose de... Enfin, c'est la vie qui m'a présenté un truc improbable. Et donc pour elle, bah évidemment, parce que c'est grâce à elle, au début, que ça a commencé. Hein. Donc Ijin, elle s'appelle, et elle est repartie en Corée.
Et elle fait toujours du yoga? Elle est toujours prof de yoga?
Oui, elle est toujours prof de yoga.
Elle a un compte Instagram?
Non.
Ah non.
C'est la vraie yogi esthétique.
Bon, on la connaîtra pas, alors.
Non.
Alors justement, c'est quoi le compte Instagram que tu préfères?
Alors, YouTube, que je préfère... Alors, je suis pas très, très cliente YouTube. Alors, j'adorerais, mais j'ai pas le temps.
Voilà, c'est ça, pour faire des choix.
Mais du coup, j'ai pas vraiment de compte préféré. Donc, je peux te dire peut-être en ce moment ce qui m'inspire. Parce que j'ai découvert une prof cet été qui s'appelle Beata Delcourt. Elle a un compte Instagram, Beata Delcourt, je crois. Avec qui j'ai... je l'ai découvert via le compte d'une amie, en fait. Et puis, j'ai commencé à la suivre sans forcément la suivre assidûment. Mais un jour, je suis tombée sur une story où elle partageait une retraite. Puis, je me suis inscrite de façon complètement irréfléchie. Et je suis allée à sa retraite et j'ai adoré son enseignement. Kundalini Himalayan aussi.
D'accord.
Donc c'est un compte qui m'inspire pas mal en ce moment. Mmh. Et puis aussi, le compte de Tina Fleur, parce que elle a aussi cet enseignement. Elles ont fait, même, je crois, la même formation en Kundalini Himalayan. Et Tina, avec qui donc je vais me former là bientôt. Donc
c'est l'inspiration du moment.
C'est l'inspiration, c'est le mood du moment, ce côté pranayama, kundalini.
Super. Si tu devais choisir, pratiquer ou enseigner?
Ouais, du coup j'ai un peu répondu
déjà. C'est vrai. Tu as spoilé la question.
Forcément, pratiquer avant tout, parce que même si j'adore l'enseignement, que ça serait un déchirement d'arrêter, je pourrais plus enseigner si je pratiquais plus, donc pratiquer.
C'est clair au moins.
Oui, c'est clair.
Ton livre ou ta bible de yoga préférée, ou d'autres choses d'ailleurs?
Y a un livre dont je parle souvent à mes élèves, et c'est L'art de la simplicité, qui est un livre qui me suit depuis de nombreuses années et que qui est arrivé à peu près plus ou moins en même temps que les débuts du yoga, un peu après, mais dans cette phase de remise en question totale de ma vie. Et donc c'est un livre qui m'a donné une impulsion pour vraiment changer beaucoup de choses dans ma vie. Alors c'est un livre qui me suit depuis ces années, depuis quelques années. Aujourd'hui, j'y replonge souvent. J'y vais souvent chercher un peu des inspirations ou des souvenirs. Mais plus je l'ouvre et plus il y a des aspects qui me titillent un peu. Donc je suis pas en total accord avec 100% de ce qui est dit, mais la toile de fond et l'idée globale de simplifier sa vie, et d'ailleurs le sous-titre c'est simplifier sa vie, c'est l'enrichir, ça reste l'objectif de mon regard.
Oui, disons que c'est un livre qui t'a donné des déclics.
Simplifier. Ouais. Simplifier et redevenir soi-même en enlevant toutes les choses superflues.
C'est clair. Et après, effectivement, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Ouais. Je sais que ça fait, c'est un livre qui peut faire controverse parfois, mais de la même façon, j'en ai le même regard que toi. Ouais. Voilà, il y a quand même l'idée de fond est bonne. Ouais. Quelle est ta posture préférée ?
Alors, c'est un peu comme les comptes Instagram, j'arrive pas vraiment, ça dépend des jours, ça dépend de si j'ai envie de douceur ou de,
c'est
ou
vrai.
De force.
Bon, tu peux nous en donner deux, si tu veux. Mais...
Alors là, j'en ai une qui me vient comme ça, c'est la demi-lune, je sais pas pourquoi.
D'accord.
J'aime beaucoup cette posture.
C'est pas la plus simple.
Non, pour moi, ça va. Voilà, la demi-lune, pour aujourd'hui.
Ok, pour aujourd'hui, on prend la demi-lune, je sais pas si ça a à voir avec l'actualité,
Arnaque
peut-être,
puisque...
Ok, et est-ce que tu as un rituel ou une routine dans ton quotidien ?
Alors, ça varie aussi, parce que bon, ça, c'est vata, mais en ce moment, c'est, alors, à part en dehors de ma pratique, mais ma pratique aussi est très variable chaque jour, en ce moment, c'est le lait d'or. C'est ma boisson favorite.
Alors, allez, pour vous. Marie, est-ce que tu peux nous donner la recette du lait d'or ?
Alors, c'est ma recette, parce que j'ai un peu fait à ma sauce, mais moi, j'utilise une cuillère à café. Alors, je prépare pas ma pâte à l'avance, parce que souvent,
on peut le faire aussi. Ouais.
Je l'ai fait pendant un temps, mais en fait, ça m'a un peu saoulée. Donc, je le fais sur place. Donc, je fais chauffer du lait végétal. J'utilise en général riz coco, enfin un peu gourmand, des fois noisette, voilà. Je mets une cuillère à café de curcuma, un peu de poivre noir, un peu de cannelle, un peu de gingembre que je saupoudre au hasard. Une petite cuillère d'huile de coco et je mélange tout ça. Et après, on peut rajouter un sucrant si on veut. Si on veut que ce soit encore plus gourmand, mais voilà,
super.
C'est déjà très gourmand comme
ça. Yogi Bees cuisine.
Voilà.
C'est génial. Voilà, donc tout le monde va se mettre au lait d'or.
Mais en fait, avant tout, c'est que le curcuma, c'est un puissant anti-inflammatoire, antibiotique naturel.
C'est très bien.
Ouais. Et du coup, et en plus, j'adore ça. Et donc voilà, j'ai. En ce moment, c'est ça.
Ce sera la recette de l'automne.
Voilà.
Ta définition du yoga, tu nous en as un petit peu parlé, mais.
J'ai parlé de la définition union.
Ouais.
Si je devais te dire moi ma définition, enfin en tout cas qu'est-ce que le yoga pour moi, c'est comme un meilleur ami. Pour c'est un outil dans lequel on peut aller puiser ce dont on a besoin. Si on a besoin de réconfort, on peut trouver une pratique réconfortante. Si on a besoin de force ou d'énergie, on peut aller chercher de l'énergie. Enfin c'est vraiment pour moi comme un couteau suisse ou une boîte à outils. On peut épuiser ce dont on a besoin à l'instant T et c'est pas forcément des postures, c'est pas forcément physique. Donc c'est, je dis souvent que c'est mon meilleur ami.
Ah, j'adore l'idée. Ça me plaît. Je te pique ta définition du yoga. J'adore. Ok, et pour finir, Marie, est-ce que tu peux nous partager ton mantra ou ta citation préférée ou qui t'inspire ?
Bon, ça sera encore une fois en ce moment, parce que j'ai pas vraiment de mantra ou citation préférée, mais en ce moment il y a une citation que je partage souvent à mes élèves, ça me suit d'ailleurs, ça nous suit depuis quand même un moment, déjà pendant le déconfinement je crois, mais c'est et je pense que c'est très très d'actualité, c'est une citation qui dit: on ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer. Donc voilà, dans cette idée d'essayer de faire au mieux pour suivre le flow et de pas se battre à contre-courant
aussi,
en fait,
et de
mettre son énergie en tout cas au bon endroit.
Super, on adore. Et qui cette citation?
J'ai oublié, je vais pas dire de bêtises.
Pas grave, on écrira la citation dans les notes.
Je l'ai prise dans le livre Kilomètre Zéro.
Ah oui.
À chaque début de chapitre, il y a une citation en fait. Et je l'ai prise là-dedans.
Ah ben voilà, très bien. Super. Et ben on en a fini, Marie, on a appris plein de choses, tu nous as délivré plein de pépites. Je suis contente aussi parce que on te connaît mieux. On a,
avec joie.
Voilà, on a.
ton projet, ton yoga en ligne, tout ça, ça prend du sens. Donc, c'est super. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter?
Bah, juste merci. Ouais.
Merci de m'avoir accordé ce temps et voilà.
Et bah, merci à toi, Marie. Merci pour tout. On peut te retrouver donc sur ton compte Instagram.
Ouais.
@MarieFayardYoga,
tout voilà. Attaché en minuscule.
Et sur, donc, où maintenant, ton site.
Mon site, MarieFayardYoga.com.
Voilà, donc, c'est voilà. Le top au niveau marketing, c'est top, Marie. Ok, super, bah, je te remercie beaucoup et puis bah, à très bientôt, Marie.
À très bientôt.
J'espère que cette interview vous a plu. Retrouvez toutes les références abordées par Marie directement dans les notes de l'épisode. Et si vous aussi vous souhaitez enseigner en ligne, vous pouvez commencer par télécharger mon guide pour enseigner le yoga en ligne dans les notes de cet épisode ou en lien dans ma bio Instagram sur mon compte @yogibizcoaching. Vous retrouverez dans ce guide des tutos pour mettre en place votre plateforme de réservation et de paiement de cours, mais également le matériel nécessaire pour enseigner en ligne, des conseils pour un bon setup, définir ses prix, communiquer sur vos cours et plein d'autres astuces. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour créer votre produit digital comme un programme en ligne ou un membership, contactez-moi en DM sur mon compte @yogibizcoaching ou par mail à cecile@yogibizcoaching.com. Enfin, si l'épisode vous a plu, partagez-le en story, parlez-en à vos amis ou laissez-nous un petit mot doux en commentaire sur iTunes, on sera ravis de vous lire. Merci encore pour votre écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain.